moi, je vais pas tant insister sur les pratiques israéliennes, puisque ça vient en grande partie d'être fait, mais pour dire de manière un peu provocatrice pour commencer, essayer d'expliquer comment, depuis une trentaine d'années, l'État d'Israël a réussi à contourner l'accusation de pratiquer un apartheid direct, y compris au sein des territoires palestiniens, grâce à ce qu'on a appelé le processus de paix. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en réalité, ce qu'on a appelé, qu'on appelle encore parfois processus de paix, en réalité a été un outil très utile pour l'État d'Israël, pour arriver à dissimuler et à transformer une réalité qui, quand on l'analyse de près, est de fait une situation de discrimination, mais qui, grâce à quelques petites entourloupes politico-juridiques, permet régulièrement à l'État d'Israël non seulement de contourner l'accusation d'apartheid, mais par ailleurs de maintenir l'illusion qu'on serait proche bientôt, demain, mais pas enfin, après, d'un règlement et qu'on serait pas loin et qu'à chaque fois on aurait des occasions manquées. Et c'est notamment une des fonctions du processus de paix et c'est une des fonctions qu'ont joué et que jouent encore les accords d'Oslo. Ça peut paraître un peu brut dit comme ça, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi, de manière assez synthétique vu le temps qui m'est imparti. Donc si c'est un peu schématique ou caricatural, n'hésitez pas à me rentrer dedans après, au moment des questions. Vous n'êtes pas sans savoir que la principale contradiction à laquelle a été confronté le mouvement sioniste dans son projet d'établissement d'un État juif en Palestine, c'est que quand ils ont décidé ça à la fin du 19e siècle, en Palestine, il y avait 5% de juifs et 95% de non-juifs. Ce qui ne manquait pas de poser un problème pour établir un État juif là-bas. Il y avait deux moyens d'y arriver qui ont été combinés, c'était la colonisation, d'un côté, et de l'autre côté, forcer le départ des indigènes ou des autochtones. C'était le seul moyen, c'est mathématique, hein, j'y peux rien, de parvenir à établir une forte majorité juive, voire une exclusivité juive, et proclamer ainsi l'existence d'un État juif. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, juste revenir sur deux dates importantes, 48 et 67. 1948, qu'est-ce que c'est ? 1948, c'est la première guerre, la guerre d'indépendance, la Nakba, bon, selon les points de vue, etc. Le principal résultat de la guerre de 1948, c'est que, alors que le plan de partage des Nations Unies, de manière déjà très contestable, hein, avait donné 55% de la Palestine au futur État juif, l'État d'Israël contrôle, au terme de la guerre, donc au moment de l'armistice en 1949, contrôle 78% de la Palestine. L'État d'Israël contrôle 78% de la Palestine, c'est la naissance de la Cisjordanie et de Gaza. La Cisjordanie et de Gaza ne sont pas des régions historiques. La Cisjordanie et Gaza, c'est les lignes d'armistice de 1949. Il faut toujours avoir ça en tête, ce ne sont pas des entités géographiques qui ont une histoire à part entière, c'est des lignes d'armistice. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc 78%, et en ayant nettoyé 80% des Palestiniens qui résident dans ce qui est à l'époque l'État d'Israël. Donc on a à peu près 800 000 hein, Palestiniens qui ont été expulsés, et de cette façon-là, l'État d'Israël peut se proclamer État juif, tout en ayant conquis une vaste parcelle de la Palestine, alors que au départ, les Juifs étaient minoritaires, y compris sur cette partie qui a été conquise. La deuxième étape, c'est 67. 67, qu'est-ce que c'est ? On ne va pas se faire un débat d'historien pour savoir qui a tiré le premier en 1967. Il y a plusieurs versions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est que l'État d'Israël, dont la version est que la guerre de 67 est une guerre défensive, l'État d'Israël quadruple sa superficie, ce qui est une façon comme une autre de se défendre. Mais en même temps, vous avouerez que ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de s'assurer d'un avenir pacifié avec ses voisins. Mais ce qui se passe en 67, c'est qu'il ne se repasse pas ce qui s'est passé en 48. C'est-à-dire que les Palestiniens ne fuient pas dans leur grande majorité. Les Palestiniens restent. Et là, Israël est confronté à une contradiction dans laquelle il est encore confronté aujourd'hui, qui est en réalité la matérialisation territoriale et administrative des contradictions théoriques du sionisme, qui est qu'ils se retrouvent à administrer un territoire, 100% de la Palestine, au sein duquel on est très loin, mais très très loin, d'avoir une suprématie démographique juive. Parce que comme les Palestiniens en 67 ne sont pas partis, on est dans une situation où on est très loin pour l'État d'Israël de pouvoir se revendiquer comme État juif si au sein de cet État sont intégrées les populations qui sont restées. Et donc à partir de 67 se met en place un système qui permet de contourner ça, qui est que tout simplement une partie des droits civiques ont été attribués en 66 aux Palestiniens d'Israël. Ce n'est pas le cas pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, qui ne sont pas reconnus comme des citoyens de l'État d'Israël ou comme des citoyens de seconde zone. Donc ça permet de préserver la nature juive de l'État, puisque 85% à l'époque de ces citoyens sont juifs, et ça permet en même temps de maintenir l'emprise territoriale. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On met en place une politique de répression systématique de la communauté palestinienne, une politique d'encadrement très serré, on va dire, des activités militantes au sein des territoires palestiniens, et on essaie de briser toute résistance et toute velléité de rébellion au sein de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ça se fait notamment au moyen de... Alors ça, c'est l'humour de l'état-major israélien, par la création de ce qui s'appelle l'administration civile. L'administration civile, qu'est-ce que c'est? C'est l'administration militaire des territoires occupés. Mais on a mis civil, c'était plus bankable. Mais l'administration civile en question, c'est que des uniformes. L'administration civile des territoires occupés, qu'est-ce que c'est? C'est l'organe administratif en charge pour l'État d'Israël de la gestion des territoires palestiniens. Donc on crée une entité séparée. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement israélien directement qui est en charge de la gestion, c'est l'administration civile. Donc ça permet quoi? Ça permet à l'État d'Israël de faire une distinction, non pas du point de vue des territoires, mais du point de vue des populations. C'est-à-dire que les populations palestiniennes sont sous la responsabilité de l'administration civile. Donc le gouvernement central israélien n'a pas de compte à leur rendre. C'est l'administration civile qui a des comptes à leur rendre. Et qu'est-ce que ça veut dire, le gouvernement n'a pas de compte à leur rendre? Ben, ça veut dire que les Palestiniens n'ont pas à participer politiquement à la vie de l'État d'Israël. Et l'administration civile, ça s'élit pas. Hein, c'est l'état-major. L'administration civile fonctionne au moyen d'ordres militaires, comme son nom l'indique, et donc les ordres militaires vont peu à peu réglementer, régenter la vie des Palestiniens au quotidien. Il y a à peu près 2500 ordres militaires qui ont été émis entre 67 et aujourd'hui. J'y reviendrai, il y a toujours des ordres militaires aujourd'hui qui sont émis en Cisjordanie. À peu près 2500 ordres militaires qui vont organiser la vie des Palestiniens et organiser la répression systématique et administrative des Palestiniens. Je ne rentre pas dans le détail des ordres, mais on va d'ordres de confiscation de terres, à des ordres de confiscation des ressources en eau, à des ordres de démolition de maisons, à des ordres, etc., etc. Mais pour que vous compreniez, quand je dis que toute la vie des Palestiniens est réglementée, organisée par les ordres militaires, je vais vous donner quelques petits exemples. Je vous ai fait une petite sélection. L'ordre numéro 101 explique, je cite, « Tout rassemblement de plus de 10 personnes est interdit. » Sauf si les autorités militaires en sont informées à l'avance et ont les noms de l'ensemble des participants. C'est bien barré pour organiser une manif ou une réunion. L'ordre 998, les Palestiniens doivent avoir une autorisation nominative des autorités militaires pour retirer de l'argent sur leur compte en banque. D'accord ? Ça, c'était en vigueur dans les années 70, dans les territoires palestiniens. L'ordre 1079, c'est une liste de 1000 textes qui sont interdits de publication dans les territoires occupés. Parmi ces textes, on trouve toute résolution des Nations Unies concernant la question palestinienne. Etc. Donc, on est du plus essentiel, la terre, l'eau, le logement, la vie économique, etc., au plus quotidien du quotidien, avec ce dernier que j'adore, l'ordre 96, qui interdit le transport de biens ou de marchandises à dos d'âne. Ça a été voté, ça a été... mis en place par l'administration civile. Une partie de ces ordres a depuis été abrogée. D'autres sont toujours en vigueur. Mais je vous donne cette liste-là pour que ça donne une idée de ce qui se passe entre 67 et 87 dans les territoires palestiniens. Ça n'empêche pas le développement d'un mouvement national palestinien, ça n'empêche pas une résistance palestinienne de s'organiser dans la durée, qui va déboucher, je vais vite, à la fin de l'année 1987, sur un soulèvement de la population palestinienne des territoires occupés, ce qu'on a appelé la première intifada. Moi, j'appelle l'intifada tout court. La deuxième étant quand même assez loin de ressembler à la première. Donc ce soulèvement de décembre 87 qui met à nu une partie des contradictions que l'État d'Israël essayait de dissimuler. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait, le soulèvement de 87? Ça rend visible sur la scène internationale la situation quotidienne des Palestiniens des territoires occupés. Et là, il n'est plus possible pour l'État d'Israël de faire comme si tout allait bien et comme si les gens étaient heureux d'être sous occupation. Parce que non, les gens ne sont jamais heureux d'être sous occupation, même quand les casques sont bleus ou même quand les troupes sont françaises. Voilà, c'est toujours valable en 2012. Donc ça rend visible ça, et ça crée un problème majeur pour l'État d'Israël, qui est que la revendication, vous savez, de l'État d'Israël est d'être l'État juif et démocratique. La seule démocratie du Moyen-Orient. Voilà, c'est un peu moins le cas. Voilà, ça les embête d'ailleurs. Mais c'est l'État juif et démocratique. Sauf que là, on voit que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Parce qu'il y a toute une partie de la population qui finalement n'a pas de droit. Et vit sous une administration parallèle à celle du reste de la population, et que cette administration est particulièrement violente. Et 87, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la manifestation de l'impossibilité pour l'État d'Israël de maintenir une situation d'apartheid direct assumée, en réalité, en contrôlant la population. On est dans une situation où la population se soulève, s'organise, est politisée, et est prête à lutter jusque très loin. On a une image un peu romantique de la première intifada, c'était les enfants qui lançaient des pierres, etc. Ça a été très 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 violent. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu une militarisation comme en 2000 ou en 2001 qu'on n'était pas dans une situation d'ultra-violence. Je vous rappelle quand même qu'on parle de camps de déportation dans le Negev, parce que c'est bien de ça dont on parle, dans lesquels vont transiter des dizaines de milliers de Palestiniens pendant les années 80, pendant la première intifada, avec un niveau de violence et un niveau de mauvais traitement à l'intérieur de ces camps dans le désert du Negev, qui sont des choses absolument abominables. Et malgré cette répression violente, la population ne, entre guillemets, ne baisse pas les bras, et on se retrouve dans une situation où, chute de l'URSS aidant, reconfiguration des cartes au Moyen-Orient aidant, les États-Unis qui souhaitent assurer leur hégémonie sur le Moyen-Orient sont dans une situation où ils vont contraindre en réalité l'État d'Israël à accepter d'entrer dans un processus négocié avec les Palestiniens, en l'occurrence la direction de l'OLP. Ce qui est la preuve par ailleurs que quand les États-Unis mettent la pression sur Israël, ils obtiennent des résultats. Et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Israël ne voulait pas négocier, le gouvernement Shamir ne voulait pas négocier, et les États-Unis ont mis la pression, non pas en disant, comme souvent on dit, en arrêtant de prêter de l'argent à Israël, c'est même pas ça. Ils ont dit, on arrête de se porter garant de vos emprunts. Ben ça a fait tomber un gouvernement. Ça a fait tomber un gouvernement, et ça a fait que le gouvernement suivant s'est inscrit dans le cadre de ce processus négocié. Et ce processus négocié dans lequel on est toujours, vous savez, 20 ans après, ce processus négocié, ce qu'on sait moins, c'est qu'en réalité, on n'a rien inventé au moment des accords d'Oslo. Rien n'a été inventé au moment des accords d'Oslo, parce que côté israélien, on avait déjà réfléchi au problème. On avait déjà réfléchi au moment où cette question se poserait. Au moment où ça deviendrait impossible d'exercer une souveraineté territoriale complète sur la Palestine et de maintenir sous contrôle les populations qui n'avaient pas de droit. Ça avait déjà été anticipé, notamment par un général travailliste, parce que vous savez que, voilà, ils ont toujours des bonnes idées, les travaillistes, toujours un temps d'avance. Le mur aussi, c'est une idée à eux. Hein. Donc, un général travailliste qui s'appelle Yigal Alon. Yigal Alon, juste après la guerre de 67, et le problème que je vous ai exposé tout à l'heure, se retrouver avec une population non-juive sous contrôle, était allé voir le Premier ministre, qui s'appelait Lévi Eshkol, à l'époque. Et il lui avait présenté un plan de sortie de cette situation contradictoire, qui est resté dans l'histoire comme étant le plan Alon. C'était quoi le plan Alon? Alon n'était pas con du tout. Alon, il a dit, on ne tiendra pas indéfiniment comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va évacuer les zones les plus densément peuplées et on va garder le contrôle sur le plus de terres possible. Donc la philosophie du plan Alon, c'est le plus de terres possible avec le moins de Palestiniens dessus. Ce qui fait qu'à l'arrivée, Alon l'explique, carte à l'appui, on va se retrouver dans une situation où on pourra contrôler peut-être 80%, 85% de la Palestine, mais on rétrocédera à une entité à définir. Alon ne tranche pas. Il dit peut-être un gouvernement autochtone, peut-être sous la responsabilité de la Jordanie, on verra. On rétrocédera aux Palestiniens les zones les plus densément peuplées, qu'on évacuera parce qu'on ne pourra plus les tenir. Et ça sera ça leur entité étatique ou proto-étatique. Ben, les accords d'Oslo, quand on regarde un peu dans le détail, qu'est-ce que c'est ? Les accords d'Oslo, c'est des accords qui mettent en place une entité d'autogouvernement intérimaire, c'est le nom officiel de l'autorité palestinienne, donc l'autorité d'autogouvernement intérimaire, qui est chargée d'administrer les zones qu'Israël concède, enfin accepte d'évacuer, Gaza d'abord, Jéricho ensuite, puis dans le désordre, hein, Ramallah, Bethléem, Jenin, Naplouse, etc., les grandes villes, les zones les plus densément peuplées, vous avez compris. On leur confie ça, et en fonction de leur capacité à gérer ces zones, on en évacue peut-être plus. Mais, c'est une dimension qui a souvent été sous-estimée, dans les accords d'Oslo, il n'est pas question de l'établissement d'un État palestinien indépendant, c'est pas écrit au sein des accords d'Oslo, il n'est pas question de retrait de l'armée israélienne, ce n'est pas écrit dans les accords d'Oslo. Le terme dans les accords d'Oslo, c'est le redéploiement. Et retrait et redéploiement, ce n'est pas la même chose. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. On se redéploie, c'est on se réorganise, ce n'est pas on se retire. Et dans les accords de Taba, qu'on appelle Oslo 2, signés en septembre 1995, il y a une petite condition qui est introduite, qui est que les redéploiements deviennent conditionnés à la capacité de l'autorité palestinienne à maintenir la loi et l'ordre dans les territoires qui lui ont été attribués. Donc globalement, c'est quoi le schéma et c'est quoi le processus ? C'est on se retire de ce que nous n'arrivons plus à gérer. C'est l'intifada l'a démontré. Les camps de réfugiés, enfin dire, si quelqu'un est déjà allé dans un camp de réfugiés à Gaza, on se demande même comment ils ont fait pour les tenir pendant 20 ans. Parce que les camps de réfugiés à Gaza, dire faire la police là-dedans, je sais pas comment c'est possible, quoi. Hein. D'ailleurs, c'est pas possible. Ça se voit aujourd'hui, hein, c'est un peu compliqué. Donc on se retire de ces zones-là, et sur la base de la promesse de futures négociations sur le statut final, eh ben, on se retirera progressivement d'autres zones si l'autorité palestinienne est capable de maintenir l'ordre là où on lui a donné le pouvoir. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et je vais au cœur de la chose, et pardonnez-moi si ça peut paraître très abrupt, mais disons que ce qui se passe, c'est qu'à partir de 1993, sous couvert de négociations de paix, l'État d'Israël sous-traite toute une partie des tâches qui incombent normalement à la puissance occupante à une administration autochtone qui s'appelle l'autorité palestinienne. Et elle sous-traite notamment deux tâches essentielles. La première, c'est le maintien de l'ordre. Et la deuxième, c'est d'assurer la survie quotidienne de ces populations en leur permettant de manger. Et chose qu'on oublie ou qu'on ignore trop souvent, le premier accord territorial date de mai 1994, l'accord du Caire, dit Oslo 1. Le premier accord économique date d'avril 1994, un mois avant. Et premier accord sécuritaire date de janvier 1994. D'accord ? Donc dans l'ordre, dans les accords formels et informels entre la future administration palestinienne et l'État d'Israël, on a les questions de sécurité, janvier 1994, une réunion à Rome, avec deux individus qui ont été bien connus depuis, côté palestinien, Mohamed Dahlan et Jibril Rajoub, qui se réunissent avec le chef d'état-major de l'armée israélienne et un des principaux responsables du Shin Bet, pour se mettre d'accord sur le système de coopération sécuritaire. Avril, c'est le protocole économique de Paris, et mai, on discute des territoires. Ce qui montre les choses de manière, ça peut paraître un peu lapidaire dit comme ça, mais on a quoi ? Le bâton, la carotte et la récompense ensuite. D'accord ? Le bâton, c'est les forces de police, le maintien de l'ordre. La carotte, c'est les aides internationales, l'économie, l'aide au développement, etc. Et les récompenses, c'est si vous arrivez à manier le bâton et la carotte à l'intérieur des territoires qu'on vous attribue, on augmentera progressivement leur superficie. C'est plus facile de le dire maintenant. D'accord ? Et moi, quand je dis ça, que les choses soient très claires, je ne juge pas des intentions des acteurs, et notamment des acteurs palestiniens, qui ont accepté de rentrer dans ce jeu-là. Je pense qu'un type comme Arafat était persuadé que ça serait un point d'appui pour la suite. Voilà, donc il ne s'agit pas de dire, Israël a appelé Arafat, a dit, est-ce que tu veux bien t'occuper de gérer l'occupation à notre place, et Arafat serait arrivé en courant de Tunis. C'est pas ça. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que les structures qui se sont mises en place, en réalité, sont revenues à intégrer une partie de la direction du mouvement national palestinien au dispositif de l'occupation, alors que l'occupation se poursuivait. On est arrivé à septembre 2000, on a eu une explosion dans les territoires palestiniens en septembre 2000, qui a été beaucoup plus courte que celle de 87, qui a pris un autre visage, j'ai pas le temps de revenir dessus, on pourra en discuter si vous voulez. L'explosion de septembre 2000, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que les Palestiniens des territoires occupés en avaient marre d'attendre depuis 7 ans, depuis la poignée de main, entre Arafat et Rabin, d'attendre depuis 7 ans des progrès qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'en réalité, les conditions de vie se sont dégradées, la situation économique s'est dégradée, la situation des militants politiques et la répression s'est poursuivie, d'autant plus qu'elle était maintenant doublée d'une répression interne, puisque maintenant on avait nos forces de police à nous qui pouvaient nous taper dessus aussi, ce qui était quand même vachement bien. Et donc on est arrivé à une explosion en septembre 2000, qui en réalité, cette explosion signifie pour moi, mais je dis toujours, c'est facile de dire a posteriori, c'est le témoignage de la non-viabilité du processus d'Oslo. Parce que l'explosion de septembre 2000, c'est quoi? C'est une population qui dit, nous n'accepterons pas de nous soumettre, même avec des carottes et des bâtons, si nous n'obtenons pas de gains politiques et territoriaux substantiels. Voilà. Et donc, s'il le faut, on redescendra dans la rue, et s'il le faut, on ira au carton. Et en septembre 2000, c'est ça qui s'est passé, et la répression, pour le coup, a été terrible. Et à partir de là, il y a une petite musique qui a commencé à se faire entendre. Ça a été haro sur Yasser Arafat, haro sur la direction de l'autorité palestinienne. Ils sont corrompus, c'est des voleurs, c'est des gangsters, c'est des mafieux, ils respectent pas les droits de l'homme, etc., etc. Toute une partie de ça est totalement vraie. Sauf que c'était vrai depuis 10 ans. Et que pendant 10 ans, on n'a rien dit. Les pays donateurs qui dénoncent la corruption à partir de 2002 sont quand même des clowns, parce que ça fait 10 ans qu'ils la financent et qu'ils le savent. Il y a un rapport d'un illustre inconnu qui s'appelle Michel Rocard, qui s'appelle donc le rapport Rocard, qui date de 3 ans après la signature des accords d'Oslo. Vous regardez, tout est dedans. Corruption, clientélisme, violence policière, justice arbitraire, etc. Tout est dedans. Donc les pays donateurs et Israël savent. Mais tant que ça tient, et tant qu'on arrive à maintenir sous la coupe indirecte de l'État d'Israël la population palestinienne, on ne dit rien, on ne critique pas. C'est la fameuse phrase d'Itzhak Rabin, le général Rabin, en 1994, qui dit « Au moins, avec les forces de sécurité palestiniennes, nous n'aurons pas de problème et de plainte devant la Cour suprême israélienne. » Voilà. L'explosion de septembre 2000 démontre que le processus d'Oslo n'est pas viable. La répression dont sont victimes les Palestiniens démontre que l'État d'Israël n'est pas prêt à reculer. La façon dont Yasser Arafat et une partie de ses proches sont pris pour cible montre que l'État d'Israël a décidé qu'il allait changer d'interlocuteur et qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre pour gérer l'appareil d'État. Ou le proto-appareil d'État, ou le pseudo-appareil d'État, vous l'appelez comme vous voulez. Et progressivement, va émerger sur la scène politique quelqu'un qui n'était pas un inconnu. Hein, Mahmoud Abbas, c'est un vieux de la vieille de l'OLP. Mais Mahmoud Abbas est imposé comme Premier ministre à Yasser Arafat en 2003. Avant, il n'y avait pas de Premier ministre. On impose Abbas comme Premier ministre en 2003. Vous vous souvenez sûrement du siège d'Arafat à la Moukata. Moukata, Arafat est enfermé dedans, les tentes, machin, etc. Voilà. Pendant le siège de la Moukata, Abbas rencontre à Kaba, en Jordanie, Ariel Sharon et George Bush. Rien que ça. Pendant le siège. Et ils discutent de la suite. Et ils discutent de l'après Arafat. La mort d'Arafat, etc. Comment ça se passe? Moi, je ne suis pas enquêteur de police. J'en sais rien. Le fait est que après la mort de Yasser Arafat, c'est le moment, entre guillemets, pour essayer de réenclencher la dynamique Oslo, mais en ayant des interlocuteurs qui sont moins ambigus que Arafat ne pouvait l'être sur un certain nombre de questions, notamment la lutte armée, et notamment le fait de poursuivre la résistance pour s'appuyer dessus, pour avoir de meilleures négociations. Et donc c'est le tandem Mahmoud Abbas et un qui pour le coup était un illustre inconnu, Salam Fayyad. Salam Fayyad c'est qui? Salam Fayyad c'est qui? Salam Fayyad, qui aujourd'hui est Premier ministre de l'autorité palestinienne de Ramallah, quand même, il ne vient pas de l'OLP. Hein. Salem Fayyad, il vient du Fonds monétaire international. C'est un ancien haut fonctionnaire à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, Fayyad. Ce n'est pas du tout un historique du mouvement de libération. Fayyad a été imposé en même temps qu'Abbas, en 2003, à Arafat, comme ministre des Finances, parce qu'il fallait mettre de l'ordre là-dedans. Voilà. Comme le type avait été formé au club, hein, au FMI, du coup, ben, on le mettait là, et là, on pensait que l'argent serait quand même moins gaspillé et peut-être mieux utilisé pour faire taire la population des territoires occupés. Sauf que ce que n'avait pas anticipé, et je vais aller vers la fin, ce que n'avait pas anticipé une partie des joyeux drilles qui pensaient qu'ils allaient réussir à, de cette façon-là, tuer l'espoir et tuer les capacités de révolte des Palestiniens, ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que cette nouvelle autorité palestinienne, il allait falloir la légitimer par des élections, par exemple. Parce qu'il y a un truc qui se fait, quoi, des fois. Donc, on a des présidentielles qui sont organisées en 2005. Abbas gagne. On peut revenir sur les chiffres, d'ailleurs. Hein, participation quand même assez faible. Pas de candidat du Hamas, etc., etc. Mais Abbas l'emporte. Il y avait tellement pas le Hamas que Mustafa Barghouti a fait 20%, c'est pour dire. C'était méchant. Mais il faut accompagner, et il faut un gouvernement qui va avec. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des législatives. Et puis là, d'un coup, les législatives ne se passent pas comme prévu. Moi, je me souviens, en 2006, les législatives, j'avais appelé ça, c'était peut-être un peu hâtif, mais une intifada électorale. C'est-à-dire que les Palestiniens s'étaient saisis du bulletin de vote pour dire la même chose que ce qu'ils avaient dit en septembre 2000, c'est-à-dire, on n'a pas renoncé, du tout, on continuera à se battre s'il le faut, et on vous le montre publiquement. Le vote pour le Hamas, je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte, mais dire pendant 3 mois avant, tout le monde criait aux Palestiniens, si vous votez mal, vous n'aurez plus de sous. Si vous votez mal, vous n'aurez plus de sous. Ça a été dit, ça a été répété, les Palestiniens le savaient. Ils ont voté en conscience à ce moment-là. Et c'était absolument pas un vote religieux, et c'était absolument pas un vote réactionnaire. C'était un vote politique, avec des motivations diverses. Les gens, ils ont voté par conviction religieuse. Il y a des gens, ils ont voté parce qu'ils pensent que l'islam, c'est la solution. Mais il y a des gens, ils ont voté parce qu'ils en avaient marre des autres. Les gens, ils ont voté parce que le Hamas, ça voulait dire non à Oslo. Et les gens, ils ont voté parce que le Hamas, ça voulait dire non à Israël. Il y avait, voilà. Moi, j'ai de très bons amis chrétiens à Bethléem ou à Betsaour qui ont voté pour le Hamas. Donc, les gens qui nous disent que c'est un vote religieux, là, ça devient compliqué quand même. Donc, il y a eu ce vote. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui, et je vais terminer avec ça. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une espèce de myopie, pour ne pas dire un aveuglement, de la part des parrains du processus d'Oslo. Parce que l'élection de 2006, c'est la deuxième mort du processus d'Oslo. Il y en avait eu une en septembre 2000, là c'est la deuxième. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se cache les yeux, on regarde pas, et on dit non, ils n'ont pas gagné, on leur parle pas au Hamas, on ne veut pas les voir, tout ça, nous on parle à ceux qui ont perdu. Ce qui est une logique implacable par ailleurs. Les mêmes qui expliquaient 3 ans avant à Arafat que ce n'était pas un démocrate. Hein. Chercher l'erreur. Et donc, à partir de 2006, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer, du point de vue des pays donateurs et de l'État d'Israël, de remettre en place une direction un peu plus sympathique que ne l'est le Hamas. Ce qui va déboucher sur l'année 2007, le boycott, l'isolement, etc. La tentative de putsch contre le Hamas à Gaza. Vous savez, le Hamas qui a gagné les élections, qui est le gouvernement et qui fait un coup d'État. Dit comme ça, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein, tout est possible. Le gouvernement qui essaie de se renverser tout seul. Il y a un putsch contre le Hamas, d'accord, avec notamment, investi dedans, j'en parlais tout à l'heure dans la réunion de janvier 94 à Rome, Mohamed Dahlan, grand partisan des services de sécurité palestiniens et grand démocrate devant l'éternel. Il y a une tentative de renversement du Hamas. Le Hamas profite de cette tentative de renversement, qu'il n'y ait pas de problème entre nous, pour prendre le contrôle de la bande de Gaza de manière violente. Et établir un pouvoir absolu sur la bande de Gaza en refusant de partager, y compris pouvoir, avec les oppositions. Avec les oppositions de gauche et avec les autres. Je ne suis pas en train de peindre en rose le Hamas, hein. Il n'y a pas de problème. Mais ce coup d'État raté à Gaza est réussi en partie en Cisjordanie. Parce qu'en réalité, la Cisjordanie, on peut se raconter tout ce qu'on veut, la Cisjordanie, c'est sous contrôle israélien, donc c'est eux qui décident ce qui s'y passe. Gaza, c'est plus compliqué, ils sortiraient en 2005. Et donc en Cisjordanie, bon alors là, on met Fayyad, pas ministre de l'économie,
Premier ministre. Rassurez-vous, il reste ministre de l'économie aussi. Hein. Il avait les deux casquettes, il les a toujours. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On retente, et c'est ça qui est absolument terrifiant quand on y regarde, et c'est là qu'on se dit que Marx avait raison sur l'histoire qui se répète. Hein. D'abord la tragédie, après la farce. La tragédie, c'était 93-2000. C'était la tragédie parce que ça a été la cooptation involontaire, je pense, pour une bonne partie d'entre eux, d'une fraction du mouvement national palestinien pour la gestion et pour leur intégration au sein du dispositif de l'occupation. Ce qui est tragique. Ce qui est tragique parce que ça a tué l'espoir, parce que ça a tué une histoire politique. Ça a fait du mal à un mouvement national qui avait un passé et qui avait probablement un avenir. C'est ça qui était tragique. Là, c'est la farce. Pourquoi c'est la farce? Parce que là, à la tête de l'appareil d'État, on a un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et du FMI qui s'était présenté aux législatives et qui avait fait 2%. D'accord? 2% il avait fait. Il est Premier ministre. Pourquoi c'est la farce? Parce que on essaie de refaire le coup des services de sécurité qui vont empêcher les Palestiniens de se mobiliser, sauf qu'on ne refait pas ce qui avait été fait dans les années 90, c'est-à-dire recruter des militants politiques dans les services de sécurité. Mais là, cette fois-ci, on fait exactement le contraire. Si vous êtes militant politique, on ne vous intègre surtout pas aux services de sécurité, même si vous êtes au Fatah. Donc on essaie de construire des services de sécurité, quand je dis que c'est une farce, c'est dans le discours, des services de sécurité dépolitisés. Dépolitisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de militants politiques dedans. Par contre, leur action est très politique, puisque leur objectif est de traquer les militants politiques, y compris les militants du Fatah, j'y reviendrai en conclusion. Et là, depuis 5 ans, on voit cette chose étrange, qui est que on a un pouvoir qui maintenant est non élu, il faut le savoir quand même. Le président Abbas, son mandat est fini depuis janvier 2009. Ça commence à faire un peu long. Fayad a fait 2%. Ok ? Qui est intégralement financé par les pays donateurs et par l'État d'Israël. Je veux dire, contrairement aux comptes truqués et aux chiffres de croissance, vous savez, ce truc dément, là, il y a la crise dans le monde, je veux dire, toutes les économies se pètent la gueule, mais il y en a une qui tient, c'est l'économie de la Cisjordanie. Parce que eux, ils sont costauds, ils ont des infrastructures de malades, et eux, ils font une croissance à 10%. Qui peut croire ça 5 minutes, quoi? Faut être un peu sérieux. La croissance en Cisjordanie, c'est parce qu'il y a du fric qui vient de l'extérieur et que ça entretient une bulle, notamment immobilière. Il y a des destructions d'emplois pendant qu'il y a de la croissance économique en Cisjordanie. Ce qui n'est pas très logique, quoi. Voilà. Donc on a cette espèce de petite bulle, une bulle économique, mais aussi une bulle politique, qui est entretenue uniquement, et croyez-moi, uniquement, parce qu'il y a un soutien économique et en grande partie diplomatique, même si ça peut paraître paradoxal, des pays donateurs. Parce que qu'est-ce que c'est un soutien diplomatique? C'est pas forcément dire à quelqu'un « j'appuie ta diplomatie », mais c'est juste dire à quelqu'un « je reconnais que tu es le représentant légitime de ces gens-là ». Ça, c'est le début d'un soutien diplomatique. C'est une reconnaissance. On est d'accord. Et on a cette espèce de truc bizarre qui est que, et ça sera mon dernier mot, je crois que les trois événements les plus significatifs qu'on a connus cette année dans les territoires palestiniens, la grève de la faim des prisonniers, qu'on a déjà oublié, mais c'était quand même la plus grande et massive grève de la faim de l'histoire des grèves de la faim, pas juste des Palestiniens. Donc la grève de la faim des prisonniers, les mobilisations sociales qui ont eu lieu au mois de septembre dernier en Cisjordanie, qu'il ne faudrait pas oublier parce que ça va recommencer. Les fonctionnaires, les salariés du privé, les chauffeurs de taxi, etc., qui ont manifesté, qui se sont mobilisés dans toutes les villes de Cisjordanie et qui ont été confrontés à une répression policière. Voilà, on voit où ils ont été entraînés. Hein. Les nouveaux flics qui sont dans des camps d'entraînement en Jordanie et à Jéricho, sous supervision des Jordaniens et des États-Unis, qui s'y connaissent bien en force de répression. D'accord ? Ça, c'est le deuxième événement. Et le troisième événement, qu'est-ce que c'est ? Les élections municipales de la semaine dernière. Il y a 10 jours, maintenant, à peu près. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces trois événements-là ? Un, les Palestiniens n'ont pas décidé d'arrêter de se mobiliser. La grève de la faim des prisonniers, c'est la démonstration la plus éclatante qu'il existe toujours un mouvement politique palestinien fort, structuré, motivé, prêt à en découdre, et surtout indépendant des autorités administratives qu'il s'agisse de l'autorité palestinienne de Ramallah ou du Hamas à Gaza, qui n'ont ni l'un ni l'autre soutenu ce mouvement à son début, qui ont été obligés de l'accompagner, et qui ont l'un et l'autre essayé d'y mettre un terme et de tirer la couverture à eux de cette mobilisation, qui était une mobilisation, point essentiel, unitaire, de toutes les forces politiques palestiniennes. On nous fait des sketchs sur la réconciliation, etc. La réconciliation, c'est pas Abbas et Hanié. La réconciliation, elle s'est faite en prison. On l'a vu. La réconciliation, elle est possible entre les militants, les organisations. Entre les appareils, non. Parce qu'il y a trop d'intérêts contradictoires entre ces appareils-là. Des intérêts financiers, chacun a son petit fief à lui maintenant, etc. Il n'y aura pas de réconciliation entre ces deux appareils. Par contre, voilà, premier point, la grève des prisonniers, elle nous dit ça. Il y a toujours un mouvement palestinien, et quand il est uni, il peut faire des choses absolument extraordinaires. Le deuxième événement, c'est les mobilisations de septembre. De quoi il s'agissait ? Il s'agissait de se mobiliser pour demander le paiement des salaires des fonctionnaires, et contre les hausses de prix, et pour demander des baisses de la TVA. C'est ça, globalement, les revendications. Une quatrième, s'y étant rajoutée au fur et à mesure, c'était contre les violences policières. Alors, on connaît ça aussi en France. Voilà. Pourquoi elle est historique, cette mobilisation-là ? Parce que c'est une mobilisation qui dit clairement que toute une partie de la population palestinienne n'est plus bloquée ou paralysée par la rhétorique du processus de paix qui était que il ne fallait pas mettre en cause notre propre direction au risque de l'affaiblir dans le cadre des négociations avec l'État d'Israël. On a toute une partie, toute une frange significative de la population palestinienne, y compris dans le milieu syndical, qui a dit ça, il y en a marre. Il y en a marre de le social plus tard. Voilà. Ben non, le social maintenant. Voilà, le changement. Le social maintenant, les salaires maintenant, et arrêtez de nous dire que vous n'y pouvez rien. Voilà. Si effectivement vous n'y pouvez rien, c'était ça qui était dit dans les mobilisations, si effectivement vous ne pouvez pas, parce que vous êtes sous l'emprise de l'État d'Israël, etc., eh bien, vous annulez le protocole de Paris. Voilà. Vous annulez ces accords économiques à la con, et vous dites, c'est terminé, on ne joue plus le jeu. Et ça, ça a un sens très fort. Voilà. Et troisième, donc, dernier événement, les élections municipales. Qu'est-ce qu'elles nous ont dit, les élections municipales ? Elles nous ont dit, un, que non seulement, comment dire, contrairement à ce qu'on nous racontait, le Hamas continue d'être assez influent en Cisjordanie, puisque le Hamas, je vous rappelle, ne s'est pas présenté aux élections municipales. Le Hamas ne s'est pas présenté et a appelé au boycott des élections. Après, c'est toujours difficile, les appels au boycott, parce qu'après, on peut dire, bah ouais, il y a 60% d'abstention, moi j'ai fait 60%. On sait que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Mais quand on regarde un peu précisément les endroits où le boycott a été plus fort, bah, c'est les endroits où le Hamas était plus fort. Voilà, il ne faut pas se raconter tout ça. 33% de participation à Hébron, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens ne sont pas allés voter parce que c'est le Hamas qui continue de contrôler la ville. Voilà. Donc, première chose, c'est ça. Le Hamas est toujours influent. Je pense qu'il est même aujourd'hui plus influent en Cisjordanie qu'à Gaza. En tout cas, plus légitime en Cisjordanie qu'à Gaza. Ça, normalement, c'est un classique, quoi. Tant qu'on n'est pas au pouvoir, on est hyper crédible. Et puis, une fois qu'on y est, voilà, c'est un peu compliqué. La première chose, c'est ça. La deuxième, c'est quoi ? C'est que le Fatah n'est plus un mouvement politique national, s'il l'a jamais été par ailleurs, mais le Fatah n'est plus un mouvement politique national. Le Fatah est un conglomérat de petits clans locaux qui sont en guerre les uns contre les autres. Et ça, c'est lié à plein de choses. C'est lié notamment à la fragmentation territoriale. C'est lié au système clientéliste qui s'est mis en place. Et le clientélisme, ça favorise les réflexes de clans, de réseaux, de petits chefs, etc. Donc le Fatah n'est plus un mouvement politique national. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, dans toutes les villes, vous aviez une liste du Fatah officielle et une liste concurrente du Fatah. Dans toutes les grandes villes. Voilà. La principale opposition au Fatah, c'était le Fatah. Et ça se vérifie dans toutes les grandes villes. Voilà. La troisième chose que ça nous dit, c'est que Mahmoud Abbas est minoritaire, y compris au sein des militants du Fatah. Puisque à Nablus, à Jenin, à Ramallah, qui ne sont pas des petites villes, hein, Ramallah, c'est extraordinaire, par ailleurs, ce sont les dissidents du Fatah qui ont battu les candidats du Fatah labellisés par Abbas. D'accord ? Nablus, Jenin, Ramallah. Et dans plein d'autres villes, hein, également. Ça, c'est le troisième enseignement. Et le quatrième et dernier enseignement, c'est que tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas sur le processus de paix qui est arrivé à un terme. C'est qu'il y a une fatigue générale de la population vis-à-vis de ce processus et vis-à-vis de l'institution qu'il incarne, qui est l'autorité palestinienne. Parce qu'au bout d'un moment, on nous a beaucoup parlé de certaines villes, mais sachez que, normalement, il y avait des élections dans 374, je crois, villes. Dans la moitié de ces villes, il n'y avait qu'une liste. Ce qui donne une idée de la volonté d'aller sur le champ politique pour défendre des idées. Il n'y avait qu'une liste. Dans 90 villes, il n'y en avait pas. Donc ils ont dû annuler les élections. Et ils n'ont pu tenir les élections, en réalité, que dans... Enfin, de vraies élections démocratiques, avec au moins deux listes, dans un quart des listes. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue de continuer à participer à ce jeu de voter pour des gens qui, finalement, ne sont que des pions, des pantins entre les mains de l'occupant. Il y a une fatigue qui est marquée dans la population et chez les forces politiques, qui correspond, et c'est pour ça que je parle des prisonniers aussi, qui correspond pas à la fin de l'engagement politique, mais qui correspond à, je pense, à un renouvellement progressif de la façon de penser la politique dans les territoires palestiniens, avec une volonté manifeste d'en sortir de la logique infernale dans laquelle ils sont enfermés depuis 20 ans, qui est la logique des accords d'Oslo. Et je m'arrête là.